Vous écoutez, on lit pour vous.
Lutter contre la pauvreté. Que peut-on faire? Un texte de Gwendoline Lebeaumain, paru le 10 octobre 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon. C'est en octobre qu'a lieu la semaine de responsabilisation sur la pauvreté et le sans-abrisme. Cette semaine a pour but de sensibiliser et de promouvoir des actions visant à mettre fin à la pauvreté et au sans-abrisme au Yukon. Keita Clark, de la Coalition anti-pauvreté du Yukon et coordonnatrice de la semaine, rapporte que le nom a changé. Nous voulions cette année nous concentrer sur ce qui a été fait et sur les domaines où nous avons besoin de plus de responsabilités. La coalition organise plusieurs événements pour souligner cette semaine et qui a lieu chaque année en octobre depuis 2005. Keita Clark informe qu'une exposition se tient à la bibliothèque publique de Whitehorse tout le mois d'octobre. Un événement à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation a également lieu le 16 octobre. Un autre événement, Whitehorse Connect, se déroule au centre culturel Quan Linh Dun. Selon la coordonnatrice, c'est l'occasion pour les gens de se connecter au service de la communauté. Par exemple, ils peuvent obtenir de l'aide pour leurs impôts. Il y a un vétérinaire sur place si les gens ont des animaux de compagnie qui ont besoin de soutien. L'opération Point in Time Count, le comptage du nombre de personnes identifiées comme étant sans domicile fixe, se fait au cours de cette semaine. Nous avons également une exposition dans le foyer Jim Smith pendant toute la semaine. Nous prévoyons aussi un rassemblement au totem de guérison sur la rue Main, ajoute-t-elle. Moins de services pour les hommes? Keita Clark reconnaît qu'elle et ses collègues ont déjà entendu ce type de préoccupation. Il y a un manque de services pour les hommes et les hommes célibataires. C'est tout à fait vrai, avoue-t-elle. L'organisme a publié cet été son tout premier rapport sur la situation des personnes seules au Yukon, le Living Wage for a Single Person, salaire de subsistance pour une personne seule. Ce rapport a mis en évidence le manque de soutien aux personnes seules en général, dit-elle. Ces dernières années, nous avons constaté que des mesures telles que les services universels de garde d'enfants, les soins dentaires au Yukon et les prestations fiscales pour enfants ont permis de réduire le coût de la vie pour les familles. Mais le coût, lui, ne bénéficie pas du même type de soutien, en particulier au niveau du système d'imposition et de transfert pour les célibataires. Par exemple, pour une personne vivant dans un ménage biparental, le revenu de subsistance par personne et par heure était de $22.72. Mais, pour une personne seule, le revenu de subsistance était de $28.39. Il faut donc soutenir davantage les personnes seules au Yukon, plaide la coordonnatrice. Kate Machen, directrice générale de Safe at Home, abonde dans le même sens. Nous entendons la même chose de la part des clients que nous servons à Safe at Home ou qui franchissent nos portes. Il y a certainement plus de programmes de repas structurés et d'espaces pour les femmes que pour les hommes. Des repas sont offerts par le Centre des femmes Victoria Faulkner, Sally and Sisters et d'autres organisations de centres de femmes. Je pense donc que les hommes doivent être un peu plus organisés pour avoir accès à leurs repas à des heures précises et qu'il peut s'agir de repas chauds moins copieux, ce qui est problématique. Que peut-on faire? Pour Keith Clark, il faut sensibiliser le public. Si vous vous inscrivez sur notre liste de membres, vous recevrez tout le temps des courriels sur des choses qui se passent dans la communauté et sur des problèmes communautaires. Parfois, nous ne sommes pas conscients de la pauvreté qui existe ici. Il y a 1200 personnes qui vivent dans la pauvreté au Yukon, et c'est tout autour de nous. La prise de conscience est donc la première étape. Et je pense qu'il faut se rendre compte que nous vivons dans une petite communauté, et j'aimerais dire qu'il faut établir des liens pour que nous fassions tous partie de la communauté et que nous ne soyons pas des étrangers. Nous devons donc changer et être plus flexibles dans le potentiel de l'endroit où nous vivons. Programme Mocassin Mobile Outreach. Le Conseil des Premières Nations du Yukon, CPNY ou CYFN en anglais, a lancé en février dernier le programme Mocassin Mobile Outreach. À bord d'une camionnette, le personnel fournit aux personnes vulnérables des services de soutien et du matériel de réduction des risques, des contraceptifs, de la nourriture chaude et des collations. L'équipe réfère à l'occasion à d'autres services. Krista Mooney, responsable du projet, et Philip Harry, coordonnateur, se montrent enthousiastes. En effet, le projet se déroule bien depuis son lancement. Les gens du centre-ville qui accèdent à la camionnette sont toujours très reconnaissants. Nous recevons assez souvent des compliments sur la chance d'avoir des horaires tardifs, partage Philip Harry. L'équipe offre un service entre 20h et 2h. Depuis juillet, l'équipe travaille un soir de plus, soit désormais du mercredi au samedi. Elle a également engagé du personnel supplémentaire. Des patrouilles sont aussi organisées dans certains coins de la ville, là où la camionnette ne peut se rendre. Elles seront conservées cet hiver, informe Krista Mooney. La communauté a toujours très bien accueilli le projet. Nous avons noué de solides relations, et cela est dû en grande partie au personnel que nous avons embauché. En effet, celui-ci a l'habitude de travailler avec la population vulnérable du centre-ville. Il s'agit donc vraiment d'entretenir ces relations, précise-t-elle. En moyenne, l'équipe compte de 70 à 80 interactions chaque soir. À l'avenir, Krista Mooney aimerait étendre le service. Je pense que, dans l'idéal, nous aimerions fonctionner 7 jours sur 7, mais il faudra du temps pour y arriver, principalement pour des raisons personnelles, estime-t-elle. C'était « Lutter contre la pauvreté, que peut-on faire ?» un texte de Gwendoline Lebeaumain, paru le 10 octobre 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon.
Ces espaces que les queers évitent pour survivre. Une chronique de Samuel Larochelle parue le 1er novembre 2024 dans le magazine Fugue. Le 14 septembre 2024, je suis allé au Festival Western de Saint-Tite pour la première fois. Après 12 heures d'émotions vives, je me suis demandé pourquoi je m'étais privé de l'événement aussi longtemps. Puis, je me suis rappelé l'agression survenue là-bas en 2015 et j'ai pensé que l'événement faisait probablement partie des espaces que plusieurs personnes LGBTQ+, évitent pour survivre, à tort ou à raison. Ma journée sur place était carrément exaltante. Je pourrais parler des rues bondées, de festivaliers, festivalières qui irradient de joie et envisager d'écrire des romans sur le magnétisme de certains cow-boys, dont les bottes, les jeans semi-ajustés, la boucle de ceinture, La chemise d'un pantalon et le chapeau m'ont fait frétiller les rotules. Je pourrais parler des danses en ligne au milieu de la rue et des spectacles qui s'enchaînent tout au long de la journée. Je pourrais résumer mes réactions à mon premier rodéo. Debout sur ma chaise, la mâchoire au plancher, les yeux en orbite et la bouche qui échappe quelques couinements de peur, pendant que ma conscience remet en question ces épreuves impliquant des animaux pour le divertissement des humains. Mais j'ai envie de réfléchir à autre chose. Pourquoi n'y suis-je pas allé avant? Même si j'ai grandi en Abitibi, je ne suis pas familier avec le monde rural, la course de Berry, la monte du taureau, cheval, l'échange de cavaliers, la prise du veau au lasso, le terrassement du bouvillon et la course de sauvetage. Mes connaissances en danse en ligne se limitent au « achy breaky dance ». Et mes affinités avec le country n'ont jamais dépassé Shania Twain, Faith Hill, Taylor Swift et la trame sonore de Nashville. Néanmoins, chaque année, je voyais plusieurs proches revenir de Saint-Tite avec la joie étampée d'en face. Qu'est-ce qui m'empêchait de les accompagner? Est-ce que je m'excluais du festival ou est-ce plutôt le festival qui ne faisait rien pour que je m'y projette? Je ne prétends pas que tous les événements doivent tenter de séduire toutes les clientèles. Mais comme les queers représentent au moins 10% de la population, peut-on vraiment les oublier? On pourrait croire qu'un festival qui attire plus de 700 000 personnes par année n'a plus besoin de faire d'efforts pour rejoindre son monde. Mais l'organisation fait encore de la promotion et pose des gestes pour élargir son public. En 2023, lorsque le festival a annoncé que Rita Baga animerait le bingo, il y a eu polémique. On peut y voir une forme de résistance du public, mais on peut aussi se dire que l'activité a battu un record d'achalandage et que la célèbre drag queen est revenue en 2024. On observe donc un mélange d'ouverture et de fermeture. Comme dans le reste de la société, dans toutes les régions, y compris à Montréal, diront plusieurs. Oui, mais non. En 2015, un jeune homosexuel a été victime d'une attaque au festival. Il a raconté que son agresseur avait un comportement déplacé envers sa sœur, qu'il avait voulu le faire fuir en lui disant qu'il était chaud, attirant, et que ce dernier l'aurait traité de fif avant de le frapper, jusqu'à lui faire perdre conscience. 2 mois plus tard, l'agresseur a écopé de 8 mois de prison. Selon le Nouvelliste, le juge a souligné que la preuve n'avait jamais été faite que l'orientation sexuelle de la victime était en cause dans cet événement et qu'il ne pouvait donc la retenir comme facteur aggravant. Ellipse. Il considère que la bataille était déjà engagée, ellipse, avant même que l'homosexualité de Mathieu Grégoire ne soit connue de l'agresseur. N'ayant pas été témoin, je ne peux confirmer si l'agresseur a choisi sans raison de s'en prendre à quelqu'un qui s'adonne à être gay ou s'il l'a ciblé de manière homophobe. Mais je dois écrire l'évidence. La communauté queer s'en souvient. On aura beau dire qu'il existe des attaques semblables ailleurs, cette altercation confirme la peur qui nous habite dès qu'on met les pieds dans les espaces associés à un mode de vie plus traditionnel. Un peu comme l'écrit Gabrielle Cholette dans son roman « Le Straight Park », en évoquant sa crainte de déranger les skateux hétéros, les personnes LGBTQ+ craignent que leur présence dans des espaces à majorité hétéro-cisgenre suscite des réactions négatives. Elles ont souvent le réflexe de taire leur queerness pour éviter les problèmes. Elles développent une capacité d'analyse des lieux pour identifier les sources de danger. Et elles savent que les espaces célébrant une culture d'autrefois attirent davantage de personnes aux valeurs sociales conservatrices qui risquent de leur vouloir du trouble. Plusieurs adeptes de ces événements répondront que nous sommes les bienvenus et nous accueillerons à bras ouverts. Malheureusement, il reste un doute qui ne s'efface pas, un doute entretenu par des décennies de violence qui laissent des traces. Un doute qui a poussé les queers à créer des safe spaces pour être sans retenue, des bars, des clubs, des pubs et des tavernes qui sont en perte de popularité parce que les personnes LGBTQ+ ne veulent plus être ghettoisées. Elles préfèrent agir librement un peu partout. Mais le peuvent-elles vraiment? Avons-nous réellement atteint un point où les queers peuvent aller n'importe où en s'habillant comme elles veulent, en bougeant sans s'auto-censurer et en exprimant leur affection sans gêne comme le font les hétéros? Ou avons-nous encore le réflexe d'éteindre nos lumières pour ne pas attirer l'attention, les insultes et les coups, sans trop savoir si nous agissons ainsi en raison de la honte internalisée que la société nous renvoie ou par réflexe de protection aussi actuel que nécessaire? C'était « Ces espaces que les queers évitent pour survivre », une chronique de Samuel Larochelle parue le 1er novembre 2024 dans le magazine Fugue.
Cybersécurité, comment éviter les pièges des fraudeurs? Un texte commandité paru le 3 octobre 2024 dans la presse. Veillez-vous à protéger vos données et vos informations personnelles en ligne? Les fraudes sont monnaie courante sur le web, surtout avec la progression de l'intelligence artificielle, IA. Découvrez comment chaque personne a le pouvoir de prévenir les menaces en matière de cybersécurité. Prévenir l'hameçonnage. Les cybercriminels utilisent plusieurs techniques visant à soutirer des informations sensibles et personnelles. Pour ce faire, ils se camouflent derrière de fausses identités en se faisant passer pour une banque, un organisme gouvernemental, une entreprise, etc. Dans le but de dérober les renseignements de leurs victimes potentielles, les pirates peuvent utiliser des courriels, des sites web, des textos, des appels téléphoniques et même des codes QR qui sont frauduleux. Ils veillent habituellement à créer un sentiment d'urgence pour amener les gens à agir rapidement. Soyez vigilants face aux situations douteuses. Si vous recevez un message d'une source inconnue ou suspecte, n'ouvrez pas les pièces jointes. Ne cliquez pas non plus sur les liens qu'il contient, puisque vous risquez alors de compromettre la sécurité de votre appareil et de vos données. Si vous avez des doutes sur un message qui prétend venir d'une organisation connue, contactez-la directement ou consultez son site web officiel. De cette façon, vous serez en mesure de vérifier l'authenticité de la communication. Le saviez-vous? Les fraudeurs sont capables d'utiliser l'IA pour analyser les données publiques diffusées sur les réseaux sociaux et créer des profils détaillés de leurs cibles. Ils peuvent ainsi rédiger des messages encore plus personnalisés et convaincants afin de soutirer des informations à leurs victimes. Évitez les rançongiciels. Les rançongiciels sont des logiciels malveillants que transmettent des cybercriminels pour bloquer l'accès aux ordinateurs ou aux fichiers d'une personne ou d'une organisation. Une fois les accès bloqués, les pirates informatiques exigent de la part de la victime le paiement d'un montant d'argent en échange de la récupération de ses données et accès. Pour limiter les risques de rançongiciel, évitez de visiter des sites web non sécurisés et de télécharger des logiciels ou des applications non sécuritaires sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Un site web sécurisé présentera une icône de cadenas à gauche de l'adresse URL du site en question. Par ailleurs, ne payez jamais la rançon. Cela ne ferait qu'encourager les fraudeurs à vous demander de l'argent à nouveau. De plus, rien ne garantit que vos données ou vos accès vous seront redonnés ou demeureront confidentiels. Le saviez-vous? Les cybercriminels peuvent utiliser l'IA pour les aider à trouver des failles dans les systèmes informatiques. Protégez ces mots de passe. Les cybercriminels se montrent de plus en plus ingénieux pour mettre la main sur les mots de passe des gens qu'ils veulent voler. Afin de préserver la confidentialité de vos données en ligne, assurez-vous de composer des mots de passe suffisamment longs, complexes et surtout difficiles à déchiffrer. Utilisez des mots de passe différents pour chaque compte et chaque appareil. De cette manière, vous compliquez la tâche aux fraudeurs et vous évitez que plusieurs de vos comptes soient compromis dans le cas où l'un d'entre eux serait piraté. Pour vous aider à gérer efficacement tous vos mots de passe, pensez à utiliser un gestionnaire de mots de passe fiable et sécuritaire. Le saviez-vous? Il est de plus en plus facile pour les cybercriminels de découvrir vos mots de passe grâce à l'IA qui peut automatiser le processus de connexion ainsi que l'essai de mots de passe variés sur différents sites web et services en ligne. Détecter l'hypertrucage. L'hypertrucage permet d'altérer et créer des contenus numériques comme des sons, des images ou des vidéos. Ces contenus, qui semblent à première vue authentiques, ne le sont pas. De plus en plus répandu, l'hypertrucage peut servir à hameçonner des gens, à usurper une identité ou à manipuler l'opinion publique. Pour vous en prémunir, privilégiez l'utilisation de sources et de sites web officiels et fiables. Le saviez-vous? Bien que les technologies d'IA utilisées par les cybercriminels pour procéder à l'hypertrucage soient encore en émergence, vous devez vous méfier des appels téléphoniques où il n'y a personne à l'autre bout du fil. Il pourrait s'agir d'une tentative d'hameçonnage ou de captage de votre voix. En cas de doute, mettez fin à l'appel. C'était « Cybersécurité, comment éviter les pièges des fraudeurs », un texte commandité paru le 3 octobre 2024 dans La Presse.
Des routes plus claires, un texte de Mathieu Perrault, paru le 20 octobre 2024 dans La Presse. Benoît Gendron, un lecteur, demande « Est-ce qu'on pourrait avoir des routes qui réfléchissent plus la lumière pour diminuer le réchauffement de la planète? Il faudra probablement attendre une bonne décennie pour y arriver. Les matériaux qui réfléchissent davantage la lumière du soleil, et donc sa chaleur, sont plus chers. Et d'autres avenues pour réduire l'absorption de chaleur par les routes sont encore à l'état de projet de laboratoire. D'après moi, ce sera assez long, dit Alan Carter, professeur de génie civil de l'École de technologie supérieure. Ça fait des années qu'on peut faire des enrobés, terme technique désignant l'asphalte ou le bitume, plus clair. Mais ça coûte plus cher. Essam Azari Jafari, un ingénieur civil du Massachusetts Institute of Technology, qui travaille sur cette question depuis son doctorat à l'Université de Sherbrooke, croit qu'il est possible, dans certains cas, de construire des routes avec des matériaux qui absorbent moins la chaleur lorsque les pierres nécessaires sont disponibles à proximité. Une solution actuellement envisagée consiste à peindre la chaussée plus pâle. Mais la peinture doit être refaite tous les 2 ou 3 ans, voire plus souvent au Québec avec le déneigement, précise M. Carter. Une autre avenue, la route en béton, matériau moins foncé que l'asphalte. Ça coûte plus cher au départ, mais c'est plus durable, souligne M. Azari Jafari. M. Carter relève toutefois 2 problèmes. Le béton devient plus foncé avec les années et dans les villes, il faut souvent ouvrir les rues pour l'entretien des égouts, aqueducs et autres conduits, ce qui est plus coûteux avec le béton. Comme l'asphalte devient plus clair avec les années, au bout de 6 ou 7 ans, la couleur est semblable à celle du béton, indique-t-il. Le problème des réparations peut être résolu en posant une mince couche de ciment sur l'asphalte, soutient M. Azari Jafari. Albedo. Alan Carter travaille sur d'autres stratégies visant à réduire l'absorption de chaleur par les routes. Pour avoir des routes moins foncées, il faut augmenter l'albédo, c'est-à-dire la proportion des rayons du soleil qui sont réfléchis, renvoyés vers le ciel. La neige, par exemple, a un albédo élevé. Et donc la chaleur du soleil se propage moins en profondeur sur des terrains enneigés. Il y a d'autres moyens qu'un albédo élevé pour empêcher la route d'emmagasiner la chaleur, nous dit Alan Carter. On peut faire en sorte que seule la couche superficielle de la route absorbe la chaleur. La nuit, la route relâche moins de chaleur parce qu'elle en a seulement emmagasiné sur le dessus. C'est un peu le même principe qu'un isolant, explique M. Carter. Dans son laboratoire, il a testé des déchets de construction comme la brique, la céramique et le verre comme base isolante sous une mince couche de bitume. Il a aussi testé une couche d'un centimètre de verre recyclé posée sur le dessus du bitume qui absorbe la chaleur sans la transmettre au bitume. On a fait un essai extérieur avec la couche de verre et la température était en moyenne de 6 degrés plus basse, indique-t-il. Le trafic n'affectait pas ses propriétés isolantes et la durabilité. Pour que cette approche soit adoptée, il faudrait une volonté publique de réduire l'absorption de chaleur par les routes, selon M. Carter, soit dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, soit dans celui de la lutte contre les îlots de chaleur. Le professeur travaille à établir le coût des deux approches isolantes qu'il a développées. Végétaux. Quant au stationnement, on peut réduire leur stockage de chaleur au moyen d'une approche végétalisée en plantant des arbres entre les rangées ou par l'entremise de grilles gazonnées, soit des dalles percées de trous à travers lesquels l'herbe pousse. Cette dernière approche est toutefois peu compatible avec les pratiques actuelles de déneigement. En théorie, les grattes de métal ne doivent pas entrer en contact avec la chaussée pour éviter de l'endommager, dit M. Carter. Il doit y avoir des petites pièces de plastique sous la gratte, mais souvent elles se brisent et elles ne sont pas remplacées. Si les grattes entrent en contact avec les grilles gazonnées, elles peuvent les arracher. C'est dommage parce que c'est une approche qui fonctionne bien en Scandinavie, où on déneige comme au Québec. En savoir plus, source Statistique Canada, 1,04 million kilomètres de routes au Canada. 57% proportion des routes canadiennes qui sont municipales. Source Ministère des Transports du Québec, 325 000 kilomètres de routes au Québec. 33% proportion des routes québécoises qui sont municipales. C'était « Des routes plus claires », un texte de Mathieu Perrault paru le 20 octobre 2024 dans la presse.